Check. On allume les ordi à présent. Vue du web, comme son nom l'indique, c'est l'actualité vue de la toile. Autour de moi ce matin, Jean-Marie Potier du site Slate, Thomas Hofnung du site The Conversation. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Alors avec vous, on prend un peu de recul pour reparler des attentats d'Istanbul et de Bagdad, hein, les 28 juin et les 3 juillet derniers. Le 3 juillet, c'était donc dans la capitale irakienne, un double attentat à la bombe revendiqué par les terroristes de Daesh. Plus de 200 morts, 200 blessés aussi, dont de nombreux enfants. Et chez Slate, Jean-Marie Potier, vous vous êtes demandé pourquoi ce drame n'avait pas fait les gros titres de la presse occidentale. Alors pourquoi ?
Alors c'est effectivement l'attentat le plus meurtrier jamais revendiqué par Daesh et il a beaucoup moins été à la une de la presse internationale que d'autres attentats survenus depuis le début du mois. On pense à Orlando, à Istanbul, à Dakar ou même en France, à Magnanville. Alors on s'est posé la question, c'est terrible à dire déjà, il y a un effet d'habitude car l'Irak est en guerre depuis 2003 et est régulièrement frappé par des attentats. Il y a aussi la question de la proximité géographique ou culturelle entre l'événement et le public. C'est ce qu'on appelle parfois crûment quand on est journaliste, la loi du mort au kilomètre.
Ouais.
Et notamment, ces deux effets peuvent effectivement expliquer que l'attentat était moins à la une de la presse internationale.
Oui, puis on n'a pas vu de hashtag sur les réseaux sociaux, on n'a pas vu tout ce qu'on voit d'habitude, on va dire, de listes de victimes. On n'a pas eu ça sur ces attentats-là.
Et du coup, ça pose la question notamment de la responsabilité, en fait. Est-ce que c'est la faute des
la
journalistes
faute à qui,
Est-ce que c'est
ouais,
la faute des lecteurs? Alors, les journalistes vont dire que c'est la faute des lecteurs parce que les lecteurs ne lisent pas ou n'écoutent pas les sujets consacrés à ces attentats. Les lecteurs diront que c'est la faute des journalistes qui ne les mettent pas à la une. Alors, on va dire en tout cas que le point positif, c'est que ce débat revient de plus en plus souvent. On l'avait déjà eu en novembre dernier quand Route et Paris avaient été frappés à 24 heures d'intervalle. On l'a vu en mars avec Bruxelles et Lahore. Et maintenant, il y a toute une réflexion, effectivement, sur la mise en avant des attentats et aussi sur le fait qu'il faut humaniser les victimes de tous les attentats dans le monde. Pas seulement quand la France est frappée, mais aussi quand d'autres pays sont frappés.
Et vous donnez des liens, je vois dans cet article-là, vous avez mis des liens avec la BBC qui fait, par exemple, une timeline qui donne toutes les dates de tous les attentats partout dans le monde.
Voilà, effectivement, il faut resituer à chaque fois, et pas seulement le resituer dans le contexte géopolitique, mais aussi resituer de manière, on va dire, beaucoup plus personnelle, dire qui étaient les gens frappés, quelles étaient leurs vies, raconter un peu, faire le récit de leur vie.
Alors, autre attentat, autre lieu, le 28 juin à l'aéroport d'Istanbul en Turquie. La cible, là, c'est donc cet aéroport. Un triple attentat suicide qui fait 45 morts. Et du coup, sur le site de The Conversation, vous vous êtes interrogé sur la sécurité dans les aéroports, Thomas Hofnung.
Oui, nous avons demandé à un chercheur de l'université de Créteil, Fabrice Hamelin, qui est spécialiste de ces questions, de revenir sur cet attentat. Il explique bien qu'un aéroport, c'est à la fois l'infrastructure de transport la plus protégée, mais également la plus vulnérable. Hein. C'est très difficile de protéger un aéroport. On l'a vu à Bruxelles, malheureusement, ou avant Istanbul.
C'est très ouvert, un aéroport.
Voilà, avec tous les passages, la densité de population. Et c'est une cible de choix, si on peut dire, pour les terroristes, parce que vous maximisez l'effet médiatique, vu qu'il y a une population très cosmopolite. Donc, ça a une résonance internationale très forte. Et puis, vous affaiblissez aussi l'économie du pays. Bien entendu, c'est très important pour un pays comme la Turquie.
Et donc, vous en tirez quoi comme conclusion dans cet article ? Il y a possibilité ou pas de sécuriser ?
Alors, effectivement, c'est toute la difficulté. Hein. On voit bien qu'on renforce de plus en plus les dispositifs de sécurité des aéroports. Malheureusement, ça ne fonctionne pas à 100%.
Et ça ne peut pas fonctionner à 100%.
Et ça ne peut pas fonctionner. Et la riposte, par exemple, des autorités turques, finalement, c'est ce qu'on appelle la résilience, c'est de rouvrir l'aéroport le plus vite possible pour montrer aux terroristes qu'ils ne gagneront pas.
Allez, on change radicalement de thématique pour le second sujet. En même temps, si on n'en parle pas ce week-end, on n'en parlera jamais. Hein, évidemment, ce qui fait du clic ces derniers jours, c'est le foot. La France en finale de l'Euro 2016 au Stade de France à Saint-Denis demain soir. Et plutôt malin chez Slate, vous êtes allé à la rencontre, Jean-Marie Potier, des footballeurs qui sont nés avec la France championne du monde 98.
Alors le 12 juillet 98, Thierry Roland a vu cette phrase mythique. Maintenant qu'on a vu ça, on peut mourir tranquille. Alors eux sont nés en 1998, voilà. Donc ils ont 18 ans cette année. Et nous sommes allés leur demander comment ils ont découvert cette victoire mythique. Alors ils l'ont souvent vu sur YouTube. Ils n'ont pas vu le match en entier. Ils ont vu que les buts. Ou parfois ils ont vu des extraits du célèbre documentaire Les yeux dans les bleus. Ou parfois une rediffusion en famille. Alors un jeune qui témoigne était avec son père qui lui a dit juste avant le premier but de Zidane, mon père me disait regarde comment ça va se passer.
Avec cette remarque culte quand même. À l'époque, ils portaient leur maillot dans les shorts.
Voilà, parce qu'effectivement, c'est aussi l'occasion de se rendre compte à quel point le foot a changé depuis 20 ans. Alors, des choses nous ont beaucoup frappé. Les coiffures des joueurs à l'époque étaient moins originales.
Ah,
tout le monde avait les mêmes chaussures, alors qu'effectivement, aujourd'hui, tout le monde a des chaussures de couleurs différentes. Donc, c'est aussi voilà, l'occasion de faire un saut dans le temps. Donc, voilà, rendez-vous en 2036 et on ira demander aux jeunes nés cette année comment ils ont découvert la génération Griezmann.
Et alors, sur The Conversation, si on lit vite, Thomas Hofnung, on se dit que vous êtes tombé dans une faille spatio-temporelle, hein, parce qu'on lit la France championne du monde de foot. Et en fait, c'est de robots robots joueurs de foot.
Oui, j'espère qu'en 2036, il y aura toujours des humains qui joueront au football. Là, il y a une compétition annuelle de labo informatique et c'est un labo français qui l'a emporté. En tout cas, c'est une équipe de robots humanoïdes qui a gagné ce championnat du monde, battant au passage l'Allemagne, le Japon, Singapour et j'en passe, et des meilleurs. Et donc, la France est championne du monde, mais donc avec des robots humanoïdes. Et j'invite les auditeurs à se rendre sur le site de Conversation. Il y a une vidéo où on voit ces robots qui jouent au foot.
Oui, tout à fait. Le résumé de la compétition, il est très drôle. Ouais.
Ouais, c'est assez marrant. Très sympa, on voit les fautes et comment les joueurs arrivent à se rétablir, à remonter sur leurs pattes, si je puis dire.
Merci, messieurs Slate et The Conversation, les deux sites d'information sur lesquels allez cliquer pour retrouver les articles dont nous venons de parler. Merci Thomas Hofnung, merci Jean-Marie Potier et bon week-end à tous.